Le dévoilement de Dieu numéro 93. Les deux vignes. Les attributs partagés deuxième partie. Ils croient et adorent le même Dieu. Le 28 avril 2019. Brian Kozurek. Pasteur. Il y a deux semaines, la semaine avant le vendredi Saint Pâques, nous avons commencé à examiner les attributs que partagent la vraie vigne et la fausse vigne. Cela vient du fait qu'ils partagent tous les deux la même mère, ce qui signifie qu'ils sont nés lors du même réveil. Maintenant, nous n'entrerons pas dans les différences entre la vraie vigne et la fausse vigne, mais ils sont nombreux, à coup sûr. Ce que nous souhaitons faire ce matin, c'est faire continuer à examiner les attributs que partagent la vraie vigne et la fausse vigne. Les dernières fois que nous avons parlé, le 14 avril, nous sommes allés jusqu'à déclarer que les deux vignes naissent lors du même réveil et nous vous avons montré où frère Branham a même inclus son propre réveil qui estère ce message. Nous vous avons montré qu'à chaque réveil, c'est Esther la doctrine qui fait entrer les gens dans le réveil. La justification à l'époque de Luther, la sanctification à l'époque de Wesley et la véritable compréhension du baptême du Saint-Esprit à l'époque de frère Branham. À chaque époque, nous voyons, après que le messager ait apporté la doctrine, qu'il s'en Esther suivi un ministère de l'enseignement, qui a apporté plus d'illumination après que le messager ait quitté la scène. Le message de Luther a été suivi par Melanchthon, qui a en effet travaillé côte à côte avec Luther, et qui ont écrit conjointement une composition connue sous le nom de la Confession d'Augsbourg qui a été déposée devant la Diète d'Augsbourg en 1530, et serait considérée peut-être comme le plus important document de la réforme protestante. Alors que la confession était fondée sur les articles de Luther, c'était surtout l'œuvre de Melanchthon, bien que cela soit communément considéré comme un énoncé de doctrine unifié par les deux réformateurs. L'importance de Melanchthon pour la réforme réside essentiellement dans le fait qu'il a systématisé les idées de Luther, les a défendues en public et en a fait la base d'une éducation religieuse, tout comme frère Livelle l'a fait avec les enseignements de frère Branham, avec ses sermons sur les âges de l'Église, insérant les enseignements doctrinaux de William Branham dans l'exposé des sept âges de l'Église, qu'ils ont travaillé ensemble à compiler. En se complétant, on pourrait dire du temps des Luther et Melanchthon, qu'ils ont harmonieusement atteint les objectifs de la réforme. Melanchthon a été poussé par Luther à travailler pour la réforme, ses penchants personnels l'auraient maintenu étudiant. Sans l'influence de Luther, Melanchthon aurait été un deuxième Erasmus, bien que son cœur fût rempli d'un profond intérêt religieux pour la réforme. Tandis que Luther répandait des étincelles parmi le peuple, Melanchthon, par ses études, gagna la sympathie des gens instruits et des savants à la cause de la réforme. Outre la force de la foi de Luther, les multiples facettes et le calme de Melanchthon, ainsi que sa tempérance et son amour de la paix, ont participé au succès du mouvement. Tous les deux étaient conscients de leur position mutuelle et ils considéraient cela comme une nécessité divine de leur vocation commune. Melanchthon a écrit en 1520, « Je préférerais mourir plutôt que d'être séparé de Luther », qu'il compara ensuite à Élie et l'appela l'homme rempli du Saint-Esprit. Après que Luther ait enseigné la doctrine de la justification, qui a commencé le réveil à son époque, et lequel réveil a été maintenu en vie par le travail de Melanchthon, Esther alors venu John Wesley, qui a repris là où Martin Luther s'était arrêté, et, en fait, son propre ministère a pris un tournant après qu'il a écouté une lecture de la préface au livre des Romains de Martin Luther. Comme nous le savons alors, le ministère de John Wesley a apporté la doctrine de la sanctification et cela a apporté un autre réveil de Dieu. Ensuite, William Branham est revenu en tant que messager du septième âge de l'Église et a été utilisé par Dieu pour restaurer les doctrines de la Bible, qui avaient été laissées de côté par les ministères au cours des deux derniers millénaires. Sestère ce ministère que Dieu a utilisé pour restaurer sa parole dans l'Église et apporte un réveil au temps de la fin, qui fait encore le tour de la terre aujourd'hui. Dans son sermon L'âge de l'Église d'Éphèse le 5 décembre 60, frère Branham dit, 91 maintenant mes frères prédicateurs, vérifiez ceci. Tout réveil produit des jumeaux. De la même manière qu'Isaac et Rebecca donnèrent naissance à des jumeaux, Esaü et Jacob. Je veux dire Isaac au lieu de Isaac et Rebecca au lieu de Jacob. Isaac et Rebecca ont mis au monde des jumeaux. Leur père était saint, la mère était sainte, mais leur naquit deux enfants, Esaü et Jacob. 92 Maintenant tous les deux étaient pieux. Mais Esaü, quant aux œuvres et aux actions, en bon légaliste, était sans doute un garçon meilleur que Jacob en tout point. Le saviez-vous? Et aussi dans son sermon L'âge de l'Église d'Éphèse le 5 décembre 60, frère Branham dit, 113 Eh bien, comme je le disais au début, avant que nous n'ayons reprenions ceci, tout réveil produit des jumeaux. L'un est un homme spirituel, l'autre, un homme naturel, un homme de la terre, j'ai adhéré à l'Église, je suis aussi bon que n'importe qui. Et c'est-à-dire ce que ce réveil a produit. C'est-à-dire ce que chaque réveil. C'est-à-dire ce que le réveil de Luther a produit. C'est-à-dire ce que le réveil d'Irénée a produit. C'est-à-dire ce que le réveil de Saint-Martin a produit. C'est-à-dire ce que le réveil de Colomba a produit. C'est-à-dire ce que le réveil de Wesley a produit. Et c'est-à-dire ce que la Pentecôte a produit. C'est-à-dire cela. Exactement cela. Maintenant, écoutez ce qu'il vient juste de dire, tout réveil produit des jumeaux et puis il dit, et c'est-à-dire ce que ce réveil a produit. C'est-à-dire ce que fait chaque réveil. À nouveau dans son sermon La Marque de la Bête 27 février 61 William Branham dit, 31 Eh bien. Par conséquent la glorieuse Église se prépare elle-même. Nous voyons que Saül et Jacob, avant que tout de Néhémie soit né, Dieu a dit qu'il aimait l'un et qu'il haïssait l'autre. Et, rappelez-vous, ils étaient jumeaux, même mère, et même père. Saisissez-vous cela? Des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux. Certainement. Il y a des jumeaux qui naissent de l'homme naturel et de l'homme spirituel. Il y en a eu là dans le jardin d'Éden, Caïn et Abel, la même chose. Cela a commencé là, et ça continue jusqu'au bout. Et considérez l'Église, Jésus, pasteur, Judas, trésorier, des frères d'une même tribu et tout, juste dans un même groupe, une même Église. L'un, pasteur, l'autre, trésorier. L'un, un démon, et l'autre, Dieu. C'est-à-dire comme ça que ça se passe. Jésus a dit, dans les derniers jours, les deux esprits seront si proches qu'ils se nuiraient, s'il était possible. Même les élus. Amen. S'il était possible. Mais ce n'est pas le cas. Et cela. Ils n'aimaient le feront jamais. Très bien. Maintenant, c'est-à-dire le point numéro 1. Chaque réveil produit des jumeaux. Même ce dernier réveil, comme frère Branham l'a déclaré. Le point numéro 2 est le suivant, la vraie et la fausse ligne croient en Dieu. Ils croient tous les deux en un seul Dieu. Par conséquent, ils sont tous les deux considérés comme des croyants. Le Dieu de Céotage mauvais d'Im 1er août 65 M. 100 est remarqué, il a prêché à ce genre d'évangile scientifique, social, d'instruction, de progrès, et la femme d'Adam a cru cela. Et il a réussi à bourrer la soi-disant épouse de Christ, l'Église du second Adam, de mêmes arguments. C'est-à-dire vrai. Sans un haut. On n'aimait peut pas attribuer cela à Dieu. Dieu est-il trop bon pour faire cela? Eh bien, du moment que vous allez à l'église, si vous croyez, le diable croit. Il n'émit pas semblant de croire, mais il croit réellement, et il n'est pas sauvé. Dans le livre de Jacques 2.19 nous lisons, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Oui monsieur, mais combien de prétendus chrétiens croient et tremblent? Combien de chrétiens aujourd'hui soupirent et gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la ville? Pas beaucoup. Je vous le dis. Et pourtant, c'est la marque des gens remplis du Saint-Esprit. Ézéchiel 9.4 L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. L'Église choisissant la loi au lieu de la grâce, je 16 mars 61-49 ce qu'il en Esther, vous vous rappelez que le Saint-Esprit va sceller dans les derniers jours? Savez-vous ce que la Bible dit? Ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Ézéchiel chapitre 9. J'aimerais poser une question à certains d'entre vous. Combien de doigts peuvent se lever ce soir? Le doigt de quiconque Esther de cette ville ou Esther de la ville d'où vous venez? Des personnes qui soupirent et gémissent jour et nuit à cause des abominations de la ville? Levez la main. Dites-moi, je peux montrer 5 personnes de ma ville. Je peux montrer 2 personnes. Ou je puis montrer 1 personne? Si vous n'aimez le pouvez pas, gardez la main baissée. Il n'y a pas une seule main levée. Vous y êtes. Ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Nous avons perdu le zèle. Là l'église pentecôtiste doit revenir à ses conditions originales. Écoutez le maire 11 juillet 62-74 rappelez-vous. La Bible dit, le Saint-Esprit avait scellé uniquement ceux qui soupiraient et gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. J'aimerais mettre votre pasteur à l'écart. Prendre ces autres pasteurs ici. Avez-vous? Combien de membres de votre église se couchent sur leur visage? Soupirent nuit et jour à cause des abominations qui se commettent dans la ville? Là, voyez, le zèle est complètement parti. Nous avons là au point que nous avons une belle église. Nous avons un beau bâtiment. C'est en ordre. Rien à dire contre cela. Une belle organisation. Pas un seul mot contre cela. C'est en ordre. Je n'ai rien contre cela. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que vous abandonnez l'essentiel. Vous abandonnez l'essentiel, le Christ de cette église, le Christ dans cette organisation, le Christ que vous considérez une organisation, vous considérez une église plutôt que Christ, et Christ Esther la parole, et la parole Esther sûre. Je sais que je peux à peine supporter quand j'entends parler des soi-disant croyants, des gens qui citent William Branham et qui ensuite vivent dans l'adultère et produisent des bâtards. Des fils de Bélial, c'est-à-dire ce qu'ils sont. Et je n'arrive pas à m'en empêcher, je m'emporte. Parce que je déteste le péché. Je déteste la méchanceté. Et cela m'attriste de voir des hommes que j'ai connus et aimés comme des frères qui, à des fins de satisfaction sexuelle, ont tourné le dos à la parole de Dieu. Mais celui qui s'aime moissonnera aussi. L'apôtre Paul a dit dans Galates 6.7 n'aimez vous y trompez pas, on aime se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et nous lisons dans 2 Chroniques 36.16 mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Et ils se raillèrent de ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Ainsi, nous trouvons dans chaque église 3 sortes de croyants. Et il en sera ainsi jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur enlève les vrais croyants, la vraie vigne, de cette terre dans l'enlèvement et laisse ici les faux croyants et les non-croyants pour le feu. Dans son sermon « Trois sortes de croyants » dit 24 novembre 63, S. Frère Branham dit, 27 maintenant, si je devais donner un titre à ça ce soir et je ferais de mon mieux pour que cette demi-heure compte, je voudrais parler de trois sortes de croyants. J'ai souvent fait cette déclaration. Je me suis dit, eh bien, je crois bien que je vais prêcher là-dessus une fois cet après-midi. C'est-à-dire ce que je pensais. 28 Il y a premièrement les croyants, puis les soi-disant croyants et, enfin, les incrédules. Eh bien, voilà bien, un sujet, mais aussi sûr que nous sommes assis ici ce soir, dans tout rassemblement il y a toujours ces trois groupes. Partout où des gens se rassemblent, nous trouvons ces trois groupes et nous les avons toujours trouvés et nous les aurons probablement toujours jusqu'au retour du Seigneur. 29 Et je voudrais que nous nous considérions nous-mêmes ce soir, tandis que je parle de ces trois groupes, afin de voir dans lequel nous sommes. Maintenant, rappelez-vous, je parle peut-être à cette église-ci, qui est terre de nouveau pleine ce soir, et le long des murs et dans les corridors. Mais je parle aussi au monde entier, vous voyez. Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C'est le ministère des bandes. Les ondes du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 M 267 voilà votre croyant, votre soi-disant croyant, et votre incroyant. Il y a une parole véritable qui se distingue et qui est confirmée. Il y a le soi-disant croyant qui en fait une imitation, et il y a l'incroyant qui rejette le tout. Et il a dit qu'il sera dans chaque congrégation jusqu'à la venue du Seigneur. Alors regardez autour de vous et examinez-vous bien. Parce que, ce matin, vous êtes l'un de ces trois types de croyants. Et en réalité, le soi-disant croyant est un chrétien social. Il accepte ce que les croyants font et disent parce qu'il veut faire partie d'un mouvement de Dieu. Et ainsi il pense qu'il doit accomplir quelque chose, mais ses actions Néhémie sont que des œuvres, et Néhémie viennent pas d'un cœur converti. Et Dieu n'acceptera aucune de vos œuvres qui Néhémie vient pas de la profondeur du cœur. Ainsi, le soi-disant croyant est enfin un incroyant. Une fausse vigne. Les ondes du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 M 177 maintenant. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit qu'il y a trois catégories de gens. Il y a trois races de gens, Cham, Sem et Japhet. Trois races. Trois catégories. Et j'ai dit que ce sont le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Voyez, il y avait Moïse, le croyant. Il y avait Jannès et Jambrès, les incroyants. Voyez, il y avait Balaam, Moïse. Toujours ces trois catégories de gens, trois catégories, le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. 178 maintenant, souvenez-vous, l'incroyant, l'église dénominationnelle, elle ne m'y croit pas du tout aux signes, froide, formaliste, empesée. L'Église dans le monde, les dénominations. Mais le soi-disant croyant, c'est la balle. C'est celui qui fait semblant de croire. Et puis, il y a un vrai croyant, qui est vraiment authentique. Maintenant, regardez-les aller là, pendant un petit instant. Et souvenez-vous, la balle, c'est ce qui protège la semence. La balle est là pour protéger la semence jusqu'à ce qu'elle rejette finalement la semence et que la semence soit égrenée de la balle au temps de la moisson. Shalom Dim 12 janvier 6489 et nous remarquons qu'il y avait là aussi Judas, le soi-disant croyant ou l'incroyant qui a attendu jusqu'à ce qu'il trouve une faute. Ensuite il se tourna vers les disciples. Simplement les 12. Et Judas était l'un d'entre eux. Il a dit, « Voulez-vous aussi partir ?» 190 Alors Pierre a dit, « Mais à qui irions-nous ? Seigneur, tu es le compositeur. Amen. Tu sais comment cela va se passer. Tu es le seul qui a la parole de la vie. Vers qui pourrions-nous nous tourner ? Nous n'y pourrions pas retourner pour être un pharisien, un sadducéen, un hérodien ou quoi que cela puisse être. Tu es celui qui a la parole de la vie. Nous n'avons pas d'autres endroits où aller. Nous nous sommes joints à ce grand concert. Nous sommes là-dedans. Nous écoutons. Nous sommes dans le rythme. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Jéhovah manifesté. Nous sommes sûrs de cela. Nous n'y savons pas ce qu'il en est de ces grandes épreuves, de ces problèmes, de ces afflictions et autres. Et tu dis que tu vas partir pour être offert et ceci et cela, et que le troisième jour il y aura tout ceci. Nous n'y comprenons pas cela. Mais nous sommes là-dedans, écoutant la symphonie de Dieu, nous sommes une partie de cela. Et nous attendons pour voir ce qui va arriver ensuite. Et nous te suivons de près. Oh! Là là! C'est cela que je veux faire. Allez réveiller Jésus samedi 30 novembre 63 et 76 aussitôt que l'incroyant arrive à trouver un point faible. Il cherche de toute façon à s'éloigner. Il s'en va donc. 77 Le soi-disant croyant reste un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'il arrive à trouver quelque chose qu'il peut copieusement critiquer. 78 Voilà donc vos trois, tous ensemble. C'est le genre qu'on avait à l'époque. C'est le genre qu'on a aujourd'hui. C'est le genre qu'on aura toujours jusqu'à ce que Jésus lui-même, ou Dieu au grand jugement du trône blanc, les séparera. 79 Certains disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce qu'il dit s'accomplit. 80 Les autres, les incroyants, disaient, il est Belzébul. Il a perdu la tête. Cet homme a perdu la tête. Allez réveiller Jésus samedi 30 novembre 63 et 74 qu'arriverait-il si Jésus se tenait là, le visage couvert d'y crachats et de sang, avec une couronne d'épines sur lui, et est tout ce qu'il avait là, une foule de moqueurs et autres? Eh bien, que penserait l'incroyant à ce sujet, ou le soi-disant croyant? Il venait de le trahir. Et, vous voyez, le soi-disant croyant, c'est celui qui vous trahit. C'est celui qui ruine votre ministère, le soi-disant croyant. Allez réveiller Jésus samedi 30 novembre 63 et 67 à bien. Il y a un autre groupe qui traîne toujours là. Ce sont les soi-disant croyants. Eh bien, ce soi-disant croyant est considéré comme un hypocrite. 68 Maintenant, considérons un soi-disant croyant. C'était Judas. Il était un soi-disant croyant. Et le soi-disant croyant s'accroche, cherchant à trouver un moyen d'avoir quelque chose là-dessus. Il reste assez longtemps pour découvrir s'il peut trouver une petite erreur, et alors, il s'en va exposer cela quelque part, nous voulons découvrir quelle espèce de supercherie, quelle pâte de lapin vous avez, qu'on s'estère frotter derrière les oreilles. Quel est-ce ce truc, afin qu'il puisse imiter cela, ou quelque chose comme cela. Ce sont les soi-disant croyants. C'est la catégorie de Judas. Donc pourquoi il fallait que ça soit les bergers le 21 décembre 64 FR. Branham, dit 226 pendant que nous avons nos têtes courbées, et nos cœurs aussi, je l'espère. Je vous prie, mon cher frère, bien que vous soyez un membre d'église, et j'espère Néhémie vous avoir pas blessé en disant ce que j'ai dit. C'est une bonne chose d'être membre d'une église. C'est ce que nous devrions faire. Mais, Ô frères, n'aimez-vous contentez pas seulement de cela, vous devez naître de nouveau. Sester ce que le grand prophète berger a dit, vous devez naître de nouveau. Il a dit à un théologien, tu dois naître de nouveau. 227 Et lorsque vous êtes né de nouveau, ce n'est pas simplement parce que vous croyez. Les gens disent, vous êtes né de nouveau lorsque vous croyez. 228 Mais la Bible dit, le diable croit aussi. Maintenant, remarquez, ce n'est pas ça. C'est une expérience. 229 Vous direz, eh bien, j'ai mené une bonne vie. 230 Les apôtres aussi avaient mené une bonne vie, mais ils n'étaient pas nés de nouveau avant qu'ils n'aient reçu le Saint-Esprit. Ils n'étaient même pas convertis avant qu'ils n'aient reçu le Saint-Esprit. Vous rappelez-vous la nuit avant la trahison ou plutôt lors de la trahison? Juste avant que la trahison n'ait lieu, Jésus dit à Simon-Pierre, « Quand tu seras converti, affermis donc tes frères. » Et Pierre l'avait suivi depuis 3 ans et demi. Il avait chassé les démons, guéri les malades, prêché l'évangile, et néanmoins, d'après la parole, il n'était même pas converti. Combien d'entre vous ici, et ceux qui sont à l'écoute à travers le monde, savent avoir reçu de Dieu une expérience vivifiante? Combien d'entre vous savent que vos pensées ont été purgées des soucis de ce monde, et sont maintenant centrées sur Christ seul, et qu'il estère la parole? Combien d'entre vous ont expérimenté ce ginesco de Dieu, cette connaissance fondée sur l'expérience, que vous avez été sauvés, et êtes remplis de l'esprit même du Dieu Créateur? Combien d'entre vous lui parlent et il vous répond? Si vous n'avez pas cette connaissance de lui basée sur une expérience, alors, à votre place, je n'arrêterai pas de chercher cela jusqu'à ce que, soit vous pourrissiez où vous êtes assis ce matin, soit il vous ramène à la maison. Combien parmi vous savent du fond de leur âme qu'ils sont nés de nouveau du Dieu vivant? Comme frère Branham dit dans son sermon La Voix à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui je 6 février 64 s 29 c'est là le problème. Aujourd'hui, chez les gens, une nouvelle naissance, ils esquivent tout ça. Ils n'aiment pas ça. Oh, ils ont substitué quelque chose à la nouvelle naissance, venez et croyez. C'est tout ce que vous avez à faire. Le diable, lui-même, croit. Et vous savez qu'il n'est pas né de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va de pair avec ça, quelque chose qui, pour le monde, semble inconvenable, de mauvais goût. 30 Toute naissance est un gâchis, peu m'importe où elle a lieu. Qu'elle ait lieu dans une porcherie, ou dans un hôpital. Une naissance est un gâchis. 31 C'est pareil pour la nouvelle naissance. Elle vous fera faire des choses que vous n'aurez pas pensé faire. Elle vous fera vous agenouiller à l'autel et pleurer, pousser des cris, vous laver le visage pour ôter le maquillage, lever les mains, louer Dieu, parler en langue et toutes sortes de choses. La nouvelle naissance fera ça. Parce que c'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour naître de nouveau. Je me souviens, il y a une 40aine d'années, être resté à l'hôtel pendant des heures. L'église s'était vidée et je suis resté là jusqu'à ce que je sache avec certitude que Dieu avait rempli mon âme de sa vie Dieu. Combien d'entre vous, les jeunes, ont fait cela? À quel point êtes-vous sérieux au sujet d'une nouvelle naissance? Ou est-ce que les soucis de ce monde se sont glissés et ont pris la place prééminente dans votre cœur? Dans l'accusation d'Im 7 juillet 63, M. Frère Branham nous a avertis, 265 maintenant, qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas reconnu cela. Aujourd'hui les gens marchaient dans l'ignorance, ils n'y savent pas que c'est la vérité. Ils pensent que c'est un quelconquisme. Ils n'y creusent pas assez pour entrer dans l'esprit de la révélation. Ils n'y prient pas assez, ils n'invoquent pas Dieu suffisamment. 266 Ils prennent tout simplement cela à la légère, Oh, eh bien, je crois que c'est Dieu. Assurément, le diable croit la même chose. Le diable croit cela plus que les gens qui prétendent le croire. Le diable croit cela et il tremble. Les gens se limitent à croire et continuent leur chemin. Mais le diable tremble, sachant que son jugement est proche. Et les gens croient cela et Néhémie font pas attention au jugement qui vient. 267 coupables de le crucifier. Assurément, j'accuse cette génération, parce que je les trouve coupables par la même parole qui les avait trouvés coupables au commencement. C'est vrai. Jésus a dit, qui peut me condamner? Il était la parole faite chair. Et aujourd'hui, la même parole est faite chair. Et examinez ce qu'il dit dans son sermon, c'est pas moi qui t'envoie? Mère, 24 janvier 62-87, elle avait accepté Dieu et s'était accrochée à cela jusqu'à ce que quelque chose s'était réellement passé. C'est ça. Quelque chose était arrivé. La parole vivante était devenue une réalité vivante pour elle. Et quand Dieu plante sa promesse en vous et qu'elle devient une réalité vivante, alors quelque chose change. Vous, Néhémie, vous mettez pas simplement à dire, oui, je crois cela. Eh bien, c'est tout à fait en ordre. Le diable croit cela comme ça. Mais cela vous est confirmé, et là la parole devient vivante en vous. Alors vous commencez à voir ce que c'est. Oui. L'âge de l'église d'Éphèse, 5 décembre 6058. Bon, continuons. J'ai été ordonné dans une église baptiste. Prenons les baptistes. Vous voyez? Les méthodistes. Que faisons-nous? Si tu confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu es sauvé. Le diable croit qu'il est le Fils de Dieu, et il tremble. Il le croit sans doute plus que bon nombre de membres d'église. Le diable croit la même chose, et il tremble, parce qu'il sait qu'il est condamné. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Jeudi 7 décembre 59-53. Or, Dieu a donné le Saint-Esprit. J'ai un autre passage de l'Écriture ici dans Jean 14.12. C'est un passage très familier à tous les gens du tabernacle ici. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Maintenant, Néhémie, laissez pas ce mot croire vous arrêter, en quelque sorte. Dans une église on dit, oui, je crois. Bien sûr, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le diable croit la même chose. Tout à fait. La Bible l'a dit. Mais l'Écriture dit, dans Jean, que nul Néhémie peut appeler Jésus le Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit. Maintenant, nous étudions aujourd'hui les similitudes d'attributs et de caractéristiques entre les deux vignes, la fausse vigne et la vraie vigne. Et nous étudions spécifiquement le fait que les deux vignes croient en Dieu. Remarquez dans son sermon la vraie vigne et la fausse vigne, Marc 7 juin 55, il dit, 28, remarquez, qu'un, jadis, était religieux au possible, il s'avança, bâtit un bel autel, offrit son sacrifice, s'agenouilla avec tout son prestige, juste comme son papa. Il n'était pas un athée, il n'était pas un incroyant, absolument pas, il était un croyant. C'est tout à fait vrai. Donc, il est possible d'être croyant et néanmoins être condamné. Le démon croit et tremble. Lorsque les démons ont vu Jésus, ils ont confessé publiquement qu'il était le Fils de Dieu et ont imploré miséricorde. C'est vrai. Quand s'est agenouillé là, il a adoré, je m'imagine qu'il a arrangé toutes les grosses fleurs de lys sur son autel. Il a apporté les fruits de champ et les a disposés là. Il s'est agenouillé et a dit, maintenant, Jéhovah, regarde combien cet autel est beau, Regarde ce vieil hôtel terre à terre. Cette bande de saints exaltés est là. Regarde là ce petit endroit bizarre terre à terre où adore ce gars. Abel. Avec ce drôle de petit agneau pion suspendu là. Regarde ce que j'ai fait ici pour toi. J'ai construit cette grande église. J'ai tout mis là. Vois-tu ce que je suis? Je suis. J'ai fait quelque chose de grand. Ça va démontrer la psychologie. Ça attirera les gens. Oh! Là là! Ce sont les œuvres du diable. C'est vrai. Il a dit, maintenant, reçois-moi, Jéhovah. Tu sais que je crois en cela. Et Dieu l'a carrément rejeté. C'est vrai. À nouveau, nous voyons dans questions et réponses d'Im 3 janvier 54 S193. Savez-vous que le diable croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Savez-vous que Jésus, publiquement, savez-vous que le diable a publiquement confessé que Jésus était le Fils de Dieu? Mais il n'était pas sauvé. Et Néhémie pouvait pas être sauvé. Lui, il est le diable. Donc, le fait de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. 194. Savez-vous que tous ces pharisiens et ces sadducéens étaient tous des hommes très pieux et religieux? Ils croyaient aimer Dieu de tout leur cœur. Mais ils ont manqué de voir cet innocent Fils de Dieu, de le reconnaître comme étant le Fils de Dieu. Et pourtant, ils étaient très religieux, est-ce vrai? Très pieux, très instruits. Ils connaissaient la Bible mieux que tous nos érudits d'aujourd'hui. Ils n'avaient rien d'autre à faire sinon s'adonner au service du Seigneur dans leur génération. Maintenant, dans Marc 5.7 et dans Luc 8.28, et dans Matthieu 8.28 nous voyons cette même histoire être racontée alors que nous lisons. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. 29 Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et frère Branham mentionne cela dans son sermon La foi qui a été transmise au saint une fois, pour toute d'im 29 novembre 53 p 57 si tout ce que vous devez faire, c'est croire que Dieu existe, c'est de vous agenouiller et de l'adorer, car était justifié. La Bible dit que même le diable croit que c'est la vérité. Et le diable a confessé publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela Néhémie l'a pas sauvé. Frères, nous ferions mieux de nous redresser. Un de ces jours ça sera une erreur. Quelqu'un a raison et l'autre a tort. Vous feriez mieux d'accepter ce que dit la Bible. Vous devez naître de nouveau. Néhémie, vous faites pas une idée mythique, que vous êtes né de nouveau. Mais quand l'Esprit tuera absolument en vous tout ce qui est du monde, vous serez régénéré. Vous serez une nouvelle créature en Christ. Alors vous saurez que les choses anciennes sont passées. Si vous aimez encore le monde, les choses du monde, la Bible dit, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Amen. C'est simple. Mais, frère, ce n'est pas blanchi à la chaux. Cela va vous nettoyer et vous rendre blanc. C'est juste. Et dans questions et réponses sur la Genèse mère 29 juillet 53 il dit, 184 et voici, la conception. Si quelques-uns d'entre vous étaient à Open Door, porte ouverte NDT, l'autre soir, quand ils prêchaient ensemble. Il dit, lorsque j'ai l'autorisation. Écoutez maintenant, petit tabernacle, car vos prières et autres ont été une aide, écoutez ceci. Il me l'a dit auparavant ici, à la maison. 185 Il a été venu chez moi et a dit, frère Branham, disait-il, je n'en suis pas revenu, dit-il, Y a-t-il quelque chose de plus grand que ce que j'ai cru et accepté? C'est-à-dire à dire Christ comme mon sauveur personnel? Et je crois que je suis né de nouveau de l'esprit? Mais je n'en ai aucun témoignage. 186 Je répondis, frère, je déteste vraiment dire ceci. Les enseignants vous ont séduit. Vos écoles. 187 Voyez. Comme je pourrais ainsi le dire. Je n'y crois pas que vous trouviez le chemin du ciel en faisant de l'autostop. Croyez-vous ceci dans vos églises? Je n'ai jamais connu autre chose ici que ce. La Bible dit ceci. Le croyez-vous? Le diable croit et il tremble. Il n'y s'agit pas de ce que vous croyez. Votre esprit doit rendre témoignage à son esprit que vous êtes des fils et des filles de Dieu en étant nés de nouveau, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit. Très bien. Donc nous avons établi que chaque réveil produit des jumeaux. Un jumeau qui est né d'une naissance spirituelle et l'autre jumeau qui est né d'une naissance charnelle. Pas par une conception du Saint-Esprit, mais par une conception intellectuelle. Et le point numéro 2, nous avons vu que les deux jumeaux, tous les deux, la vraie vigne et la fausse vigne, sont des croyants. Cela nous amène donc au point numéro 3. Par conséquent, la vraie vigne et la fausse vigne sont tous deux religieux. Et nous voyons cela tout au long des Écritures. Et il est juste de penser que si les deux sont croyants, alors les deux seraient aussi religieux. Dans son sermon La Sagesse contre la foi dîme 1er avril 62 frère Branham dit, 346 ces deux sources se sont combattues depuis l'Éden, la foi de Dieu contre la sagesse de Satan. Dieu a prouvé dans tous les âges que cela n'est mis se mélangera pas. Cela doit être séparé pour croître. 347 maintenant. Rapidement. Laissez-moi passer en revue juste une parole ou deux sur chacune d'elles. Juste prendre certaines choses que j'ai écrites ici. 348 Esaü et Jacob étaient un type parfait, tous deux étaient croyants. Les deux étaient des jumeaux. Esaü était un type ecclésiastique. C'était un homme intelligent. Il avait un bon sens moral et des choses du même genre, mais il n'avait que faire avec le droit d'aînesse. Jacob Néhémie se souciait pas de ce qu'il devait faire afin d'avoir le droit d'aînesse. Et aussi longtemps qu'ils étaient ensemble, il Néhémie pouvait pas produire. Esther c'est vrai, l'un était contre l'autre. Avez-vous saisi cela? Amen. Sortez du milieu de cela. Séparez-vous. Dit Dieu. Et Néhémie touchez pas à leurs choses impures. Je vous accueillerai. Vous voyez? 349 Jacob devait se séparer de son frère dénominationnel avant que Dieu Néhémie puisse donc le bénir. Dieu avait dit la même chose à Abraham. Israël et Moab. Les 400 prophètes d'Israël se tenaient devant Miché. Et Miché s'était séparé d'eux. Puis il a reçu la parole du Seigneur et Esther revenue avec Moïse et Corée. La même chose. Il Néhémie pouvait pas s'associer, il devait se séparer. Esther c'est vrai? Dans la restitution de l'arbre épouse d'Im 22 avril 62 frère Branham dit, 228, le asile, des Esaü dénominationnels. Eh bien, Esaü, Esther comme Esaü et Jacob. Tous deux étaient jumeaux, tous deux étaient religieux. Esaü était un homme charnel. C'était un brave homme. Il n'avait pas. Dites donc. Eh bien alors. Il n'allait pas voler, boire et tout le reste. C'était un religieux. Mais il se disait, eh bien. Tant que je suis religieux. Qu'est-ce que ça change? 229 Mais ce drôle de petit Jacob. Peu lui importait la façon dont il devait avoir cela. Ce droit d'aînesse était ce qu'il désirait. Peu importe comment il l'avait obtenu, il l'avait donc eu. S'il devait s'agenouiller à l'autel, pousser des cris, crier et pleurer à chaudes larmes, et faire sortir la morve, excusez-moi, Ou vous savez? Il a obtenu cela. Il Esther allait directement sous ses yeux. Ce n'Esther pas ce que je voulais dire. Ainsi donc excusez-moi. Il s'Esther donc agenouillé à l'autel. Il a crié jusqu'à ce qu'il a reçu cela. Eh bien? Il a reçu cela. Voyez? Il Néhémie s'était pas préoccupé de la façon dont il recevrait cela. Aussi l'a-t-il reçu. 230 Certains d'entre eux disent. Moi. Frère Branham. Ces hommes-là font trop de bruit à l'autel. Ils crient continuellement. Je n'en veux pas de cette façon-là. Eh bien. Vous Néhémie l'aurez pas. Et dans son sermon tous les jours de notre vie 22 juin 59 il dit, 18 cependant. L'homme Esther très religieux. Cain était très religieux. Et il réfléchissait pour trouver un moyen de retourner auprès de Dieu. Et Dieu était disposé à le recevoir. Mais Cain voulait venir à sa façon. Et Dieu voulait qu'il vienne par son chemin à lui. Et nous voyons qu'il y avait là un conflit total entre les deux. Eh bien, aujourd'hui, l'homme qui essaie de dire qu'il établit ses propres credos et que sais-je encore, il fait cela par la puissance de son père Cain, et de son père Adam. Ce n'Esther pas comme avec le chrétien qui est né de l'Esprit et qui dépend du Saint-Esprit, ça. C'est Esther d'après le second Adam qui était Jésus, l'expiation qui conduit l'homme par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, lorsque l'homme essaie de dire qu'il n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, on peut alors comprendre dans quel état d'esprit cet homme se trouve. Pourtant il veut être religieux, mais il le veut à sa façon à lui. 19 Et il ressemble beaucoup à Cain. Cain voulait être religieux. Aussi s'Esther il est rendu là et a fait sa propre religion. Et lorsqu'il fait cela, il a amené cela devant Dieu comme pour dire, voici ce que j'ai de meilleur. C'est Esther tout ce que je peux faire à ce sujet. Eh bien, c'est Esther à prendre ou à laisser. C'est Esther presque ainsi que l'homme se comporte aujourd'hui. J'ai contribué à la construction de l'église. J'envoie mes enfants dans cette église-là. J'y verse mon argent chaque année. Et c'est Esther le mieux que je puisse faire. C'est Esther à prendre ou à laisser. Oh, voyez, il veut des choses à sa propre façon. C'est Esther ainsi que Cain s'est Esther comporté. Mais Dieu l'aime toujours, et il Esther néanmoins allé à sa recherche. Qu'Esther ce que Dieu a dit à Cain? Tu feras une bonne chose si tu adores tout simplement comme ton frère Abel. Abel a suivi la voie de Dieu. Mais Cain voulait sa propre façon. Et Dieu a dit, eh bien, Cain, je n'ai rien contre toi. Si tu viens tout simplement, et si tu suis la même voie qu'Abel, tu feras une bonne chose. Et dans son sermon se revêtir de toutes les armes de Dieu dit 1er juillet 62 il dit, 84 mais pour aller vite, ces géants intellectuels impressionnent les humbles hommes de Dieu. Or, le peuple de Dieu a toujours été sans instruction et humble. Dites-moi juste une seule fois où il en a été autrement. Observez les deux fils. Observez les enfants de Cain et de Seth. Abel a été tué. Il était le type de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Seth le remplaça. 85 Or les enfants de Cain sont devenus intellectuels, religieux, parce que leur père était intellectuel, Cain, religieux. Et Cain a dressé un autel. Abel a dressé un autel. Cain a offert une offrande. Abel a offert une offrande. Cain a adoré. Abel a adoré. Et si Dieu considère uniquement une église, son système, son adoration, ses offrandes, et ainsi de suite. Et si s'Esther tout ce que Dieu considère, il a été injuste d'avoir condamné Cain, car celui-ci était tout aussi religieux qu'Abel. Mais Néhémie s'était pas approché correctement. Donc vous pouvez être religieux, vous pouvez adorer Dieu, Vous pouvez offrir des sacrifices à Dieu. Mais cela, Néhémie, signifie même pas que vous êtes sauvé. Et cela nous amène au point numéro 4. 4. Par conséquent, la vraie vigne et la fausse vigne adorent Dieu avec sincérité. Je restaurerai d'hymne 26 juin 55 et 16. Eh bien, il y avait deux esprits dans ces deux jeunes gens. S'ils ont vécu, ils ont dû avoir des esprits. Eh bien, l'un était du diable, et l'autre était de Dieu. C'était exactement parfait, Judas et Jésus. De même que Caïn a tué Abel à l'autel. De même Judas a tué Jésus à l'autel. Toute la Bible est un grand tableau. Maintenant, après qu'ils furent chassés du jardin d'Éden à cause du péché, eh bien, ces deux jeunes gens, l'un à ma gauche et l'autre à ma droite, Caïn et Abel, eh bien, tous les deux ont voulu trouver grâce devant Dieu. Eh bien, écoutez attentivement et Néhémie comprenez pas Malachi. Je vais prendre mon temps afin que vous compreniez certainement. Eh bien, Caïn et Abel sont tous venus adorer le Seigneur. Caïn a bâti une église, il a bâti un autel. Un autel est un lieu d'adoration. Et Caïn a apporté un sacrifice. Et Caïn croyait en Dieu. Et Caïn adorait Dieu. Alors si Dieu n'exigeait de vous que d'être membre d'église, de le confesser, de lui apporter une offrande, de lui offrir un sacrifice, il serait injuste d'avoir condamné Caïn. Maintenant, j'espère que cela touche au but ce matin. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est clair que vous êtes perdu et en route pour l'enfer. Et si cela vous pique au vif ce matin, c'est clair que vous comprenez à quel point cette nouvelle naissance est importante. Parce que sans cela, vous n'y arriverez pas. Et vous serez jugé au jugement du trône blanc comme un croyant ou pire encore comme un incroyant total. Et pourtant, vous croyez en Dieu, et vous adorez Dieu et vous faites des sacrifices à Dieu comme le fait un vrai croyant. Mais vous savez qu'au fond de vous, n'avez pas eu ce ginesco de Dieu, vous n'avez pas encore reçu, de lui, la connaissance basée sur une expérience et la vivification de votre esprit. Dans son sermon le temps de la fin d'hymne 7 mars 54, P. frère Branham dit, 44 ils étaient des frères de la même église. Amen. Oh, j'aime la parole. Regardez. Cela place la vie en vous. Remarquez, c'était la parole de Dieu. Eh bien, quand Caïn a offert son sacrifice, religieux qu'il était, il s'est prosterné dans l'adoration. Quant à être fondamentaliste, il était aussi fondamentaliste dans sa religion qu'Abel. Si Dieu, si vous parlez du fondamentalisme, Dieu exige l'adoration. Caïn a adoré. Dieu exige un sacrifice. Caïn a offert un sacrifice. Mais il l'a fait de la mauvaise façon. Eh bien, nous allons commencer avec ceci, car je vois que mon temps avance rapidement. Eh bien, commençons avec ces deux vignes juste ici. Je peux prendre n'importe quoi que vous voudrez, qui existe sur la terre aujourd'hui, et vous le montrer dans la Genèse. Et elle monte en graines maintenant. C'est-à-dire pourquoi nous avons tant de confusion. Autrement ça embarrasse. Voyez, par exemple, un grain de blé était au commencement seul, mais à la fin ça devient plusieurs grains. C'est de là que sont issus tous ces ismes, toutes ces absurdités, c'est de là que sont issus tous ces adultères, c'est de là que provient toute cette immoralité. Cela a commencé dans la Genèse, au commencement. Et dans son sermon question et réponse sur les Hébreux 3 d'hymne 6 octobre 57 frère Branham dit, 593 et maintenant, si Dieu est juste, si tout ce qu'il exigeait n'était que l'adoration, Caïn avait adoré Dieu avec autant de sincérité qu'Abel. Tous les deux étaient sincères. Tous les deux essayaient de trouver grâce auprès de Dieu. Aucun d'eux n'était infidèle. Tous deux croyaient absolument dans Jéhovah. Maintenant, là, cela nous donne matière à réflexion. 594 Il y a des gens ici, ce soir, que je n'ai jamais vus. Je n'ai ni vous ai jamais vu auparavant, mais vous devez comprendre ceci, et garder cela à l'esprit. Voyez, peu importe combien vous êtes religieux, cela n'a rien à voir avec la chose. Vous pourriez vivre dans l'église, vous pourriez être toujours très sincère, et être néanmoins perdu. Voyez, 595 et vous dites, eh bien, vous dites, nos pasteurs sont les plus intelligents, ils sortent des séminaires et ils ont reçu la meilleure instruction. Ils sont des théologiens, ils connaissent toute la théologie et tout le reste. Et ils sont intelligents, formés, les véritables les mieux sélectionnés que nous connaissions. Mais ils pourraient néanmoins être perdus. Voyez ? Hébreux 6.4-8, car il est impossible à ceux qui ont été éclairés une fois pour toutes, ceux qui ont goûté au don céleste et sont devenus compagnons du Saint-Esprit lui-même étant rapprochés d'eux et sensibilisés à sa présence, en goûtant la bonté de la parole confirmée de Dieu et ayant été exposés aux puissances de l'âge à venir, et qui sont tombés et ont dévié de la vérité, il leur est impossible de revenir à un changement de la pensée, vu qu'ils ont crucifié en eux-mêmes le Fils de Dieu, et l'ont soumis à la disgrâce publique. Maintenant, notez attentivement ce que Paul dit juste après cela. Car la terre qui boit la pluie, la doctrine qui tombe souvent dessus et qui produit une récolte, qui est utile à ceux qui l'ont semé et qui est ce qui a fait l'ensemencement. Le Fils de l'homme, c'est cette terre qui produit la récolte, qui reçoit les bénédictions de Dieu. Mais la terre qui produit des épines et des chardons estère s'en va alors pour celui qui a semé la terre, et elle court le danger d'être maudite. À la fin, elle sera brûlée. L'une produit une récolte parce qu'elle a la vie et l'autre n'a pas de vie et Néhémie peut donc pas produire de récolte. Regardez ces hommes qui ont siégé au conseil du Sanhédrin. Ils étaient les plus zélés pour Dieu parmi leurs pairs. Ils étaient les hommes les mieux formés dans la parole pour leur jour. Ils étaient les hommes les plus sincères dans leur adoration de Dieu parmi leurs frères croyants, et pourtant ils étaient perdus. Et ils ont non seulement renié le Fils de Dieu, mais ils l'ont complètement rejeté. Alors vous pourriez dire, je n'aime et rejette pas Dieu, je n'aime et crucifie pas le Fils de Dieu, ni n'aime et l'expose à l'ignominie, et je vous dirais que même si vous adorez Dieu en toute sincérité, et que vous êtes très humble et religieux, et faites des sacrifices à Dieu en payant vos dîmes et vos offrandes, et en soutenant toutes les œuvres missionnaires que vous pouvez éventuellement soutenir. Cependant, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est en vain parce que vous serez encore perdu et irez en enfer. La vraie vigne et la fausse vigne Marc 7 juin 55-23 Maintenant, retournez avec moi dans la Genèse. Observez ces jeunes garçons venir là pour adorer. Tous les deux adoraient. Eh bien, Caïn adora Dieu de tout son cœur, il offrit un sacrifice, il bâtit un autel et adora l'Éternel, tout aussi sincèrement que possible. La sincérité, les autels, être membre d'église, tout cela n'aimait signifiait rien du tout, pas même un peu. Ensuite, Abel vint, non pas avec la beauté. J'aimerais vous le faire remarquer. Débarrassez-vous-en toujours, surtout vous, les gens d'ici, parfois. C'est ce que je vais vous prêcher, vous, les frères pentecôtistes qui parrainez mes réunions. Voyez-vous? Écoutez, nous sommes, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui cloche. C'est vrai. Je crains que nous n'ayons mis nous mettions à agir plus que les autres églises et tout. Vous lâchez prise. Frère, il convient. Nous. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est Esther d'un bon réveil à l'ancienne mode, qui détruit tout raideur et libère les gens. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, janvier 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.